La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, corps mystique, liturgie et contemplation. Qu'entendre par corps mystique ? Jean Scott Érigène concevait le corps mystique comme un doublé du corps matériel, doublé qui assurait la permanence. Dans son ouvrage « Corpus Mysticum », l'Eucharistie et l'Église au Moyen-Âge, Henri de Lubac montre que l'expression de corps mystique, qui ne figure pas dans la Bible, a été employée jusqu'au XIIe siècle pour désigner le corps du Christ présent dans le pain consacré au moment de l'Eucharistie. Puis, elle s'est appliquée à l'Église et renvoie à l'ensemble des fidèles qui répondent à l'appel du Christ. Où les fidèles répondent-ils à l'appel du Christ de manière visible, sinon dans la liturgie? Comment envisager la liturgie et la contemplation à partir de cette donnée du corps mystique? La réponse nous est proposée, une des réponses, par Jacques Maritain dans un magnifique petit livre intitulé « Liturgie et contemplation ». La préface de juillet 1959 est faite par Charles Journet, le futur cardinal, et il insiste sur l'inspiration de l'encyclique Mediator Dei, qui est une encyclique qui s'attache à définir ce qu'est au vrai la liturgie. Si elle est en esprit et en vérité le culte rendu au Père Céleste par le Christ et son corps mystique, elle demande à procéder du silence et de l'amour pour s'achever dans l'amour et le silence. D'une manière générale, la vie cultuelle de l'Église totale est ordonnée à la vie théologale de l'Église totale. Tel est le commentaire, ou plutôt la présentation, que fait Charles Journet dans sa préface à ce livre « Liturgie et contemplation » qui reste d'une actualité éminente. Pour argumenter l'importance de la contemplation dans la liturgie, Jacques Maritain s'appuie sur le corps mystique. Autrement dit, un fidèle à l'Église qui prie seul dans le silence, prie pour le corps mystique, au nom du corps mystique, avec le corps mystique, dans le corps mystique, puisqu'il appartient à ce corps mystique. Ce corps mystique, c'est non seulement l'assemblée des fidèles dans le bâtiment église, au moment où il prie, au moment de la messe ou de vêpres, mais c'est aussi le corps de l'Église tel qu'elle est aujourd'hui, et c'est aussi le corps de l'Église glorieuse, et pas uniquement en pèlerinage, tel qu'elle est déjà et qu'elle sera au ciel. Cette dimension très large du corps mystique empêche de considérer la participation à la liturgie comme un mécanisme, comme une récitation ou comme une participation qui serait une participation sociale. Corps mystique et société ne sont pas deux termes superposables, même si, nous allons le voir, Maritain en joue dans liturgie et contemplation pour éclairer l'un par l'autre. Cet ouvrage commence par quelques chapitres qui décrivent la liturgie à propos d'une réforme qui est celle qui suit l'encyclique Mediator Dei du 20 novembre 1947, réforme qui renvoie à la mémoire de Don Virgile Michel, qui est un pionnier du mouvement liturgique en Amérique. Et l'importance de la liturgie pour Jacques Maritain, c'est selon saint Thomas d'Aquin, la grâce du Saint-Esprit opérant dans les cœurs. Maritain commente ainsi, « C'est donc à la réalité internelle et invisible qu'a passé désormais l'importance majeure, la loi d'intériorisation qui est caractéristique du Nouveau Testament, ne s'applique pas seulement à la vie morale, où désormais ce sont les mouvements intérieurs et leur pureté qui comptent d'abord. Elle s'applique aussi au culte lui-même, le culte rendu à Dieu par l'Église, est nécessairement un culte extérieur, mais c'est un culte en esprit et en vérité, où ce qui importe avant tout est le mouvement intérieur des âmes et la grâce divine opérant en elles. Maritain insiste sur cette expérience, finalement, qui n'est pas une sensation, cette expérience de l'esprit qui inhabite le cœur de l'homme de manière plus forte au moment de la liturgie, et va appuyer toute cette réflexion sur la liturgie et la contemplation sur cette inhabitation qui est non seulement celle de l'Esprit-Saint, mais de la Trinité dans le cœur du croyant et qui appelle tout croyant à une contemplation. Cette contemplation, si elle a un moment fort dans la liturgie, n'est pas exclusive à la liturgie, et vous connaissez assez Jacques Maritain pour savoir qu'il a appelé à ce qu'il appelle la contemplation sur les chemins, c'est-à-dire la contemplation pour tout baptisé, la contemplation n'étant pas réservée aux mystiques cloîtrés, à savoir Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou Sainte Élisabeth de la Trinité. Le saint qui sert de référence à Maritain à la fin de liturgie et contemplation, c'est Saint Benoît Labre, qui est le saint de la route par définition. Je vais vous donner quelques citations. Saint Benoît Labre n'était pas un ermite, mais un mendiant, ou plutôt un chercheur de Dieu sur les routes de la terre, complètement retranché du monde par l'indigence totale, la vermine et la mendicité. Et à ce titre, il était retiré plus loin des hommes et plus seul qu'un ermite même. Solitude de Saint Benoît Labre. La solitude est sa vocation, qu'il soit perdu dans les chemins sauvages ou parmi le peuple de Rome. La contemplation doit être toute sa vie, dans le temps, avant la béatitude éternelle. Il faut qu'il quitte le couvent où il croyait devoir passer sa vie. Il n'a qu'à aller par les chemins et prier, souvent, dans l'angoisse et les ténèbres. Il n'a pas d'autre désir que la vie solitaire, au milieu de privations infinies, dans la présence ardente de Dieu, de celui qui le requiert tout entier. Telle est donc sa vie, il va par les chemins avec Dieu, il n'a besoin de rien de ce monde, la pauvreté totale lui est un don du ciel, la pauvreté, la solitude et le silence. Sa prière est d'humilité et d'amour, de charité et de lumière, de feu et d'extase, il chante dans les forêts. Par les longs chemins de France et d'Italie, à pied et les pieds nus, il est arrivé à Rome. C'était sans doute en lui un désir sacré. Il est venu chez Saint-Pierre et Saint-Paul et sur la tombe d'innombrables martyrs. Ainsi, le corps mystique est la seule compréhension possible de la vie de sainteté. L'Église n'est pas une ONG, comme nous le rappelle le pape François, mais n'est pas non plus une école de morale ou de vertu. L'Église ne peut se comprendre que si on la rapporte à ce qu'elle est profondément, un corps mystique, une épouse du Christ. Et en Église, c'est-à-dire dans le bâtiment, dans la liturgie ou sur les routes, comme Saint Benoît Labre, c'est d'abord cette conscience du corps mystique qui permet de comprendre l'appel unique de chacun, c'est-à-dire la vocation du baptisé.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Le cycle de la nativité, œuvre pour orgue de Olivier Messiaen, nous permet de scander notre réflexion sur le corps mystique. Pour me référer à l'ouvrage admirable « Liturgie et contemplation » de Jacques Raïssa Maritain, je vais m'arrêter maintenant sur le chapitre 2, « La liturgie et la contemplation de l'Église », qui est articulé à partir du corps mystique. Le corps mystique est référé au mystère de l'incarnation. C'est parce que le Christ s'est incarné qu'on peut parler de corps mystique. Sinon, on parlerait peut-être de Dieu mystique, de ce que l'on veut, mais pas de corps mystique. Voilà ce qu'écrit Maritain pour bien comprendre la liturgie. En ce qui concerne l'Église, ou le corps mystique, quelque chose est plus grand, non pas certes que le saint sacrifice, mais que la sublimité même des leçons, des prières et des chants, des rites et des symboles sacrés, par où se déroule le cycle des saisons et des fêtes, et qui manifeste la participation de l'Église aux états du Seigneur. Ce quelque chose de plus grand, c'est cette participation elle-même, en tant que vécue dans l'intime de l'âme par l'Église en ses saints, et à quelques degrés, en l'immense foule de ses membres en état de grâce. Vous avez noté, vécu. J'avais parlé dans l'émission, dans la première partie de l'émission, d'expérience. Et il s'agit de la participation elle-même. Autrement dit, on n'est pas au bord du fleuve en laissant le fleuve se couler, en regardant tout ce qui fait le culte, la beauté du bâtiment, la beauté de la liturgie, etc. Il s'agit de le vivre. Et Maritain donne des critères de ce vécu. Autrement dit, c'est la souffrance et l'amour par lesquels l'Église applique tout au cours du temps les mérites et le sang du Christ, et c'est la contemplation de l'Église, cette contemplation qui lui fait expérimenter en quelque sorte les mystères du Dieu Sauveur et qui s'accomplit par la grâce du Saint-Esprit, qui est l'âme de l'Église, dans les personnes humaines jointes en un, dans sa communion. Vous le voyez, l'union au Christ est le fondement de la liturgie. Si le cycle, on va dire, des 12 grandes fêtes, en Orient, on a dans les 12 grandes fêtes, nativité, etc. En Occident, on n'est pas aussi systématique pour dire 12, mais c'est la même chose. Elles scandent l'année liturgique. Si donc ces 12 grandes fêtes permettent de suivre le grand moment de l'incarnation, à commencer par Noël, c'est pour la souffrance et l'amour, c'est-à-dire Vendredi Saint et Résurrection. On va dire ces deux temps, cette diastole, cette systole, absolument inséparable du mystère christique. Eh bien, tout ce mouvement s'unifie, on va dire, dans la personne humaine, c'est-à-dire dans l'unicité absolue de chacun des êtres sur terre et chacun des baptisés. Et c'est au nom de cette personne, qui est la grande notion apportée par le christianisme, et elle a pour corréla la liberté, qu'il est possible de comprendre le corps mystique dans une acceptation qui fait à la fois référence à un tout. Le corps mystique, on l'a vu dans cette déclinaison, la déclinaison temporelle de l'Église in via et puis la déclinaison glorieuse de l'Église in patria, mais tout cela articulé sur la personne qui ne va jamais être écrasée par le tout, mais au contraire, qui porte en elle, elle-même, le tout en raison de la valeur absolue qu'elle est. Et du coup, la liturgie ne peut être comprise qu'à partir de la contemplation. Et entendons bien par le mot contemplation, non pas une promenade romantique, non pas une sorte de rêverie béate ou pieuse ou sensible. Non, non, non. La contemplation, pour Maritain, s'est référée à ce qu'ont vécu les pères du désert, c'est-à-dire un monachisme ou un érémitisme qui articule l'ascèse à la vie mystique. Écoutons Maritain, toujours dans ce chapitre 2, la liturgie et la contemplation de l'Église. Cette contemplation de l'Église, où s'épanouit dans l'invisible des cœurs la grâce des vertus théologales et des dons de l'Esprit, est évidemment supérieure à la grande voie liturgique qui la manifeste. Action de grâce, louange, supplication, le service liturgique n'arrive du reste jamais. Si pur que soit son élan, si ardente son exultation, à manifester cette contemplation du corps mystique d'une façon totalement adéquate, car en elle-même, elle est ineffable. C'est à elle que la liturgie veut conduire les âmes, et c'est d'elle qu'elle surabonde. Contemplation comme source et sommet. Vous reconnaissez ici la liturgie comme source et sommet, qui fait partie des textes conciliaires. Cette formule, cette phrase nous permet d'être appuyés sur finalement la différence entre les vertus théologales et les vertus morales. Pour saint Thomas d'Aquin, la vertu liturgique est une vertu morale qui a une noblesse énorme, intense, mais qui n'est pas égalable à la vertu théologale. La contemplation s'appuie sur les vertus théologales et en ce sens, elle est fondement et sommet de la vie liturgique. Maritain insiste. Ce qui est vrai du corps est évidemment vrai, toute proportion gardée, des individus qui sont ses membres. En ce qui concerne les âmes individuelles, la contemplation, pour autant qu'elles y atteignent, est supérieure aux actes par lesquels elles prennent part au service divin. Quelques-uns se méprennent parce que, comparant la contemplation d'une âme en particulier avec la liturgie de l'Église entière, ils disent que la contemplation n'est qu'un acte singulier d'un individu, tandis que la vie liturgique est l'acte commun du corps mystique lui-même. En réalité, c'est la participation de tel ou tel en particulier à la vie liturgique qu'il faut comparer à la contemplation de tel ou tel en particulier. On se méprend aussi quand on prétend que dans la contemplation, la personne agit comme tout singulier ou individu singulier, tandis que la participation à la vie liturgique, elle agit comme partie et membre de ce tout qu'est l'Église ou le corps mystique lui-même. En réalité, de même que pour une âme individuelle, chanter l'office divin et participer à la vie liturgique de l'Église, de même, pour une âme individuelle, contempler amoureusement Dieu est participer à la contemplation de l'Église. Parce que c'est le propre du corps mystique, société surnaturelle, qui vit de la grâce du Christ et du Saint-Esprit, d'embrasser dans le tout qu'elle constitue et dans sa communion, ce qu'il y a de plus intime et de plus personnel dans l'activité la plus hautement personnelle des personnes singulières qui sont ses membres. Vous avez remarqué ici une doublure entre corps mystique et société surnaturelle. Corps renvoie vraiment au corps. Et vous avez en référence, nous sommes tous un même corps avec différents membres. Saint Paul a bien rendu l'inanité de la jalousie, du pied ou de l'œil par rapport à d'autres membres. Chacun a sa place, chacun a sa fonction. Comparer société et corps permet en même temps de les distinguer, parce que dans société, on a cette idée de complémentarité, on va dire des charismes ou des métiers, puisqu'on a une société, mais on a dans société autre chose qui n'apparaît pas dans corps, c'est dans socius, c'est-à-dire le socius, c'est quelque chose qui va renvoyer à l'humain. Et je pense à Paul Ricoeur qui fait la différence entre le socius et le prochain. Il fait cette différence à propos de la parabole de la miséricorde de Saint-Luc, ou dans la troisième parabole, celle du bon samaritain, il est recommandé finalement de passer du socius au prochain et de se faire le prochain de l'autre en quittant finalement le socius. C'est en raison du rôle du socius que les deux premières figures, que sont le lévite et le prêtre, passent à côté du blessé, non pas sans le voir, mais sans se faire le prochain, parce qu'ils obéissent à une règle sociale qui n'est pas non plus négligeable ni infamante. Du coup, ce passage du socius au prochain s'entend dans la définition « société surnaturelle ». C'est une manière donc de commenter « corps mystique, société surnaturelle » en articulant ce qui nous permet de faire d'une société de socius une assemblée de prochains, c'est-à-dire une église. Pour terminer, revenons au texte de Maritain dans « Liturgie et contemplation » qui conclut « On méconnaît trop souvent cette vérité, qui tient essentiellement à la différence même entre la société surnaturelle qu'est l'Église et toute autre société ou communauté. Jamais l'homme n'est davantage et plus parfaitement membre de l'Église que lorsque, clausio ostio, c'est-à-dire la porte fermée, est seul avec celui qu'il aime, il est uni à Dieu dans une ineffable union de personne à personne et entre dans les profondeurs de Dieu. Celui qui, comme saint Antoine dans le désert ou saint Jean de la Croix dans son cachot, est uni à Dieu par l'horizon infuse, participe plus à la vie du corps mystique que ceux qui, par leurs paroles et leurs gestes, et avec piété sans doute, mais à supposer qu'il n'ait pas franchi le seuil de la contemplation infuse, suivent avec le plus d'exactitude les rubriques de la liturgie, car c'est à ce qu'il y a de plus intime et de plus profond dans l'Église que celui-là participe ainsi, en son amour pour Dieu et pour les hommes, passe invisiblement quelque chose de l'amour que Dieu infuse à l'Église entière. Et c'est des sources divines elles-mêmes de la vie de l'Église passant par son cœur et le faisant agir comme partie d'elle, autrement dit, c'est de la grâce du Christ et de l'inspiration du Saint-Esprit que procède en lui l'union contemplative. Au sein de ce qu'il y a de plus personnel au monde, il est membre de l'Église plus que jamais et a un titre éminent. C'est donc à partir de la contemplation du corps mystique que l'on peut comprendre la contemplation elle-même et du coup la liturgie. Et ce renversement est fondamental. L'Église est une assemblée mystique, est une société surnaturelle. Et si on n'a pas compris ça et qu'on reste dans le jeu finalement des médias qui s'arrêtent au plan moral et qui trouveront toujours des raisons de condamner l'Église pour sa morale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'Église cherche à être droite. Non, c'est pas ça. Mais la fine pointe de l'Église et sa compréhension ultime, c'est le corps mystique qui n'est compréhensible qu'à partir du mystère de l'incarnation et donc de ce que le Noël nous rappelle. Mon dernier mot, ce sera donc la dernière citation de Maritain, tirée de saint Thomas d'Aquin. Il s'agit de dire que le culte et la liturgie relèvent essentiellement de la vertu de religion qui a pour objet non pas directement Dieu lui-même mais quelque chose à faire, alors qu'il s'agit au contraire d'honorer Dieu et dans ce cas-là de raccrocher la vertu de religion à la vertu théologale où il s'agit d'être uni profondément par les vertus de foi, de charité et d'espérance au Christ lui-même. À bientôt.